Voilà.
Bravo.
Sur la montre de Franck, il est 6h20, mais en fait, il est 6h05, je crois. Donc, il faut que... 6h07. Voilà. Il va falloir que je fasse très attention parce que j'ai un calendrier horaire précis. Voilà. Donc vous aurez un petit moment à la fin de cet échange pour pouvoir vous entretenir en privé avec Franck Dubourdieu, peut-être vous faire signer ce livre si vous le souhaitez. Voilà. Donc je crois que dans la salle, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Franck. Donc je ne perdrai pas longtemps en présentation, simplement pour signaler que donc Franck Dubourdieu, d'abord il connaît bien cette maison, Mola, puisqu'il y a souvent édité et même dégusté, je crois, dans ses murs. Mais donc il a un lourd passé. Dans le domaine du vin, un passé d'ingénieur agronome, un passé d'œnologue, un passé de consultant, un présent de consultant et un présent de dégustateur. Et c'est à ce titre qu'il a donc réalisé ce nouvel ouvrage. Alors le dernier dont j'ai souvenir concernait les Grands Bordeaux, ça remonte à 5 ans. Il y en a eu beaucoup d'autres. D'ailleurs, il figure sur le rabat de ce nouveau livre, donc la bibliographie de Franck sur la dégustation des vins de Bordeaux, entre autres, est importante. Et je dirais que ce nouveau livre qui s'appelle « Du terroir à la guerre du goût », je dirais, reprend un certain nombre d'éléments qu'il a beaucoup travaillé et autour de la notion de terroir, autour, bien sûr, de la dégustation elle-même et de ses principes. Il y a d'ailleurs, à la fin du livre, un précis de dégustation très intéressant, bien sûr, puisque c'est plus qu'un résumé, c'est vraiment quelque chose de précis et d'opérationnel, peut-être pour les professionnels ou semi-professionnels ou amateurs éclairés qui sont dans cette salle, et puis pour les amateurs moins éclairés dont je fais partie. C'est un livre, je dirais que c'est un livre dans lequel Franck est à la fois un observateur, observateur patenté du vignoble bordelais, du vignoble français, mais aussi du vignoble mondial, hein, puisque ses analyses et ses comparaisons concernent l'ensemble du vignoble mondial. C'est aussi un livre de dégustateur, je viens de le dire, puisque Franck déguste à l'horizontale et à la verticale une quantité de crus impressionnante. Je dirais peut-être qu'il nous précisera l'ampleur de son travail. Et puis aussi, c'est un livre, de militant, parce que Franck Dubourdieu, il résume et il rappelle et il développe aussi ce qui fait un peu le combat de sa vie de dégustateur, qui est une illustration et une défense des vins de qualité. Voilà. Alors on va être amené à développer ce point. Donc c'est un livre qui est tout à fait possible d'emmener dans sa poche, mais aussi de lire chez soi. C'est un livre très pratique, il n'est pas très long, mais détaillé. Il est édité chez Confluence, dont je salue ici l'éditeur.
Qui arrive tout juste, d'ailleurs.
Voilà. Et donc j'aimerais peut-être, Franck, comme première question, peut-être que vous justifiez peut-être le titre lui-même, puisque ce terroir et cette guerre du goût, donc terroir on voit bien, la guerre du goût on devine, mais c'est l'emploi de ce mot de guerre, j'avais en commençant ce livre conscience qu'il y avait dans le domaine du vin évidemment une guerre économique, mais je me suis rendu compte que cette guerre économique elle reposait sur quelque chose d'essentiel qui est le goût. Alors est-ce qu'on peut peut-être dire comment le goût peut être sujet d'une guerre, hein, d'une guerre
économique
et puis,
avant tout une guerre. Enfin, je, dans la préface je précise bien que c'est une guerre économique. Et que il a été très difficile. On voulait faire passer trois messages dans ce livre. Le terroir, avant tout, la dégustation, et puis peut-être quelque chose de plus alléchant pour mieux le vendre encore et y mettre ce mot guerre. On a beaucoup discuté, on le met, on ne le met pas. Il y a la guerre du goût qui existe en tant que telle, un ouvrage de littérature qui existait. Bon, étant associé à terroir et dégustation, on ne craignait rien sur le plan juridique. Mon éditeur l'avait vérifié. Et après, associer les trois mots terroir, guerre et dégustation, certains dans cette salle ont été mis à l'épreuve. On n'arrivait pas à faire un titre avec les trois mots. Donc, deux personnes ont trouvé ce titre, finalement, qui nous a réunis. Alors, on ne peut pas dire qu'il est très heureux. parce que aller du terroir à la guerre du goût, alors c'est un peu le livre, puisque je commence par le terroir, je le développe largement, un peu trop pour certains, d'autres au contraire disent c'est très bien, vous êtes allé très loin, très profond, c'est le cas de le dire, pour voir comment est la vie dans le sol, macro, micro, le rapport des racines avec le minéral, ces choses qui m'ont beaucoup intéressé, que j'essaie de rapporter là. Bon, c'est assez passionnant de le raconter, faut-il que ça intéresse, bien sûr. Alors, je commence comme ça très longuement, et après, presque pas pour nourrir le livre, mais dans mon combat, effectivement, de la dégustation, mon combat, mon goût, qui est très personnel, donc j'en arrive à constater que tous les vins que je n'aime pas tous les vins, il y a des styles de vins différents en haut et en bas de l'échelle, il y a une guerre, mais c'est une guerre économique, et les vins, pour être vendus en bas, on est obligé de les travailler, de les modifier, de les rendre marchands, de les rendre standards, de les rendre propres à attaquer le marché mondialisé.
Voilà. Alors, une des choses que j'ai apprises en le lisant, c'est que donc, le terroir, on sait que le vignoble français est basé sur cette notion-là, même si ça se discute hein, selon les lieux. On a souvent l'idée d'une nouvelle planète du vin, en particulier du côté des pays du sud, de l'hémisphère sud. L'idée que la notion de terroir serait totalement absente et qu'on serait en face d'une nouvelle viticulture de masse, pratiquée sur de grandes superficies, de grandes surfaces, avec des raisins qui se promènent, qui voyagent. Or, ce que vous dites, c'est quand même que ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être, dans cette guerre hein, entre peut-être une vieille viticulture et une nouvelle viticulture, hein, des changements, des lignes de changement, en particulier avec du fait qu'au sud aussi, par exemple, je ne sais pas, moi, Nouvelle-Zélande ou en Australie, on assisterait là aussi à, notamment chez les viticulteurs plus jeunes qui cherchent à s'installer, à des recherches qui les mèneraient peut-être à considérer le vin serait aussi une affaire de terroir.
Considérer le vin comme une affaire de terroir, c'est-à-dire faire une exploitation au niveau des facteurs humains, parce que le terroir, c'est bien sûr quelque chose de génétique, un lieu avant tout, hein, un lieu, mais c'est aussi un homme dessus et des facteurs agronomiques que je détaille bien, et des facteurs œnologiques, parce que vous allez jusqu'au bout et avec un excès de barrique vous allez pouvoir complètement bousiller un vin qui a priori pourrait correspondre au meilleur canon. Donc c'est toutes ces choses-là. Les grandes différences, c'est que le cru considéré en France et en Europe, la vieille Europe, le cru, c'est un homme, ses raisins et un vin, et qui met en bouteille. C'est ça chez nous, indépendamment du fait qu'il y a en France, c'est des caves coopératives, c'est à peu près un tiers de la production, et des gens qui vendent des vins en vrac, c'est-à-dire à la citerne, à peu près un tiers de la production. Donc sur les 70 000 exploitants français, il y a environ 25 000 crus indépendants qui vinifient leurs raisins pour mettre en bouteille. Voilà. Dans le Nouveau Monde, c'est pas pareil. Dans le Nouveau Monde, c'est entre 60 et 85% de la production, ce sont des grandes entités, des sortes de bodegas, des grandes coopératives.
Les wineries, comme on dit.
Qu'on appelle les wineries, donc c'est des unités privées, mais qui travaillent à l'échelle industrielle, qui vont produire plusieurs millions de bouteilles, en produisant du raisin. Parce que quand on va à Napa Valley, par exemple, on voit de magnifiques vignobles, mais aussi la possibilité d'acheter. Alors, vous avez des unités, c'est surtout en Australie que ça se trouve, mais en Afrique du Sud aussi. On achète 5, 10 fois plus de raisins qu'on en produit. Et on va, là, faire des gammes. Alors, des gammes, je parle de toutes ces gammes.
Mais alors, on ne l'achète pas forcément dans l'appellation.
Ah non, mais il n'y a pas d'appellation. Il n'y a pas. Il commence dans les zones les plus évoluées. En Napa Valley, par exemple, Napa Valley est reconnu. Napa Valley est reconnu, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, sortir de Napa Valley et rentrer dans Napa Valley. Il y a une limite pour acheter du raisin. Mais en dehors de ça, la notion d'appellation, c'est-à-dire de délimitation, c'est en voie, je sais, au Chili, en Argentine, c'est en voie, mais je ne pense pas que ce soit véritablement efficace. On est libre d'acheter du raisin n'importe où. Et on est surtout libre de produire n'importe quel raisin. C'est ça qui est incroyable. Je l'ai même appris en faisant ce livre. C'est-à-dire qu'en Gironde, vous le savez, on a le droit de faire 5 cépages rouges les trois cépages blancs, je ne vais pas vous les énumérer, vous les connaissez tous.
Ils sont là.
Ils sont là, voilà. Et en dehors de ça, vous n'avez pas le droit. Ceux qui font du chardonnay ici ou du pinot noir, bon, pinot noir, ils n'en font pas, mais ceux qui font du chardonnay, c'est du vin de table. Et encore, oui, oui, c'est du vin SIG maintenant, du vin sans... voilà, et on n'a pas le droit. Et quand on lit, moi, vous lirez qu'on peut associer là-bas de la Syrah avec du pinot noir, la Syrah qu'on cultive...
En Languedoc.
En Languedoc, Châteauneuf-du-Pas, dans l'Ermitage. Eh bien, tout simple, là-bas, on peut l'associer. On peut faire un assemblage. Et vous pouvez assembler tout ce que vous voulez. Alors, les assemblages bordelais, mais tous les assemblages sont possibles. Voilà. Donc, c'est pas du tout... c'est pas du tout... Par exemple, quand une vigne est implantée chez nous, en général, bon, on va l'arracher, mais au bout de quelques années, etc. Si ça marche pas, si le contexte est pas bon, si les assemblages sont pas bons, on va la recéper. C'est-à-dire qu'on va pas hésiter, on va la couper, on va greffer dessus un autre cépage qui, a priori, est plus marchand et va mieux marcher. Ça, c'est la liberté.
Alors, j'en reviens à mon terroir en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Alors, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'un jeune déclare vouloir faire un vin de terroir en Australie, par exemple?
Alors,
que ça
effectivement, il y a un mouvement, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, si en Australie, je pense qu'il y a 85% de la production, c'est des grosses wineries, hein, 80, c'est énorme. Bon. Et en plus, il y en a 5 ou 6 à peu près, c'est tout, font 85% de la production. Donc, il y a des petites entités... Et même des producteurs, vous avez cité, souvent des jeunes, qui, devant un marché qui est un peu surchargé sur le plan mondial, vont s'orienter différemment et essayer de faire un vin à la française. C'est-à-dire, ils vont cultiver le raisin, ils vont faire un vin, ils vont le mettre en bouteille, ça va porter leur nom, ce sera chez eux. Donc là, on part vers une viticulture plus élitiste, au moins qui est différenciée.
Alors, on devine évidemment que leurs chances de percer sur le marché sont évidemment peut-être un peu aléatoires.
Il faut du temps.
Mais cette tendance là que vous signalez, est-ce que ça fait partie des choses qui vous paraissent prometteuses?
Mais très certainement, dans la mesure où dans ces pays, ce sont de très grands pays qui ont des différences de latitude ou de longitude qui sont énormes. Donc, ils peuvent trouver des terroirs adaptés aux cépages. Par exemple, je cite le cas du pinot noir en Nouvelle-Zélande. Beaucoup de jeunes plantent du pinot noir parce qu'ils ont trouvé des microclimats et des terroirs où on ne va pas arroser, où il fait plutôt frais, et là, il va donner de bons résultats. Donc, on continue. Si les vins du Nouveau Monde, on peut dire, ont démarré dans les années 70-75, hein, avec vraiment les Américains, la Napa Valley, chef de file de ça, et ensuite, ça s'est étendu au Chili, en Argentine, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et Australie. Aujourd'hui, ça fait une certaine histoire, ça fait 25 ans d'histoire. Donc déjà, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Il n'y avait pas la science qu'il y a aujourd'hui. Et il va apparaître, et il apparaît déjà, des vins qu'on peut considérer des vins de terroir. Ils sont en très faible nombre, évidemment. Mais ça, moi, j'y crois.
Mais alors donc des vins de terroir en nombre très faible dans les pays émergents du vin. Mais cela dit, on apprend aussi dans ce livre qu'en France même, des vins de terroir, il n'y en a pas tant que ça.
Voilà. Alors c'est ça.
Comment ça s'explique, ça? D'abord, quelle est la proportion entre les vins de terroir et puis ce qui n'est pas vin de terroir? Donc qu'est-ce que c'est que les 90% qui ne sont pas des vins de terroir, comment vous les qualifiez? Alors, et pourquoi finalement cette contradiction, c'est-à-dire d'être dans un pays de la France qui met en avant les vins de terroir et qui au fond n'en compte pas à vos yeux tant que ça?
C'est ça. Alors tout à l'heure, j'ai parlé un tiers, donc déjà sur 70 000 exploitations, il y a 25 000, donc je dis que sur ces 25 000 exploitations, il y a à peine 10 à 15%. Je peux le vérifier à travers mes dégustations à Bordeaux. Ça fait 25 ans que je goûte les vins à Bordeaux. C'est à peu près le même pourcentage. Je vais très souvent en Bourgogne. C'est à peu près le même pourcentage. Ça, c'est un point de vue très personnel et subjectif, de dire qu'est-ce que je considère, moi, comme un vin de terroir. Bon, et bien sûr, mais je considère qu'en France, il y a beaucoup de crus et que la proportion des crues qui sont capables de donner le message d'un lieu, quel qu'il soit, même si ce n'est pas un lieu magnifique, même si ce n'est pas un cru classé, un message d'authenticité du vin, hein, même si c'est un Bordeaux supérieur, ça m'est égal, mais qui donne une sorte de vérité du vin du lieu, même s'il est un peu rustique, parce qu'on n'est pas dans le grand terroir du Médoc ou à Saint-Émilion, vous voyez ce que je veux dire ? Une sorte de vérité. Et je considère que c'est, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Alors je cite 10 à 15%, ramené à 70 000 exploitations, ça fait 3%. Donc je pars du chiffre de 3%.
Oui, c'est évident, 3%, c'est un chiffre qui frappe, on se dit c'est vraiment très faible.
Non, mais c'est sur 70 000. Hein.
Mais alors, est-ce que si je vous comprends bien, ça veut dire que les vins, ceux qui ne se reconnaîtraient pas dans votre
que je ne reconnais pas.
Enfin, oui, que vous ne reconnaissez pas ou qui ne se reconnaîtraient pas dans votre caractérisation. Oui. Ce sont il y a au fond des vignerons, des viticulteurs qui considèrent qu'ils font du vin de terroir et qui à vos yeux ne peuvent pas être considérés comme tels parce que ils n'arrivent pas à exprimer dans leur vin ce qu'ils pourraient exprimer en fonction de ce qu'ils ont sous les pieds.
Sous les pieds, c'est le cas des appellations très nobles. Où que ce soit, que ce soit à Chevrey-Jean-Bertin, que ce soit à Volnay, que ce soit à Margaux, que ce soit à Pomerols. Il y a toujours des gens qui sont à la traîne, qui profitent du colifichet de l'appellation pour faire des vins qui ne sont pas, qui sont du vin, mais qui, pour moi, ne correspondent pas du tout à ce qu'un amateur peut en attendre.
Et quels sont leurs défauts à vos yeux ?
Ah oui.
Quels sont les défauts principaux ? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher vraiment ?
Mais les défauts, souvent, c'est l'insuffisance. Donc, c'est dans la caractérisation des vins, les vins insuffisants, les vins excessifs et les vins de terroir, c'est des vins qui sont au milieu, qui sont entre les deux. Ils sont ni trop ni trop peu, d'accord ? Voilà. Alors, souvent, c'est des vins insuffisants. La plupart, c'est des vins insuffisants. C'est-à-dire que vous êtes dans une appellation noble, vous faites le maximum de Margaux ou Pomerols, c'est les deux qui sont les plus connus à Bordeaux. Ben, vous avez envie de faire le maximum de production, car vous êtes sûr de le vendre. D'accord ? Ça veut dire que vous allez faire près de 50 hectolitres à l'hectare. Ça dépend des terroirs. Quand c'est un très grand terroir, il peut se permettre de faire 50 hectos. Si le terroir est moyen, il faut quand même encore descendre. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, dans ce cas-là, on a un vin qui est dilué.
Oui,
qui...
il est dilué. Il n'est pas évocateur. Il n'est pas évocateur des lieux parce qu'il manque de matière. Il ne donne pas assez de matière. Parce que les vins aujourd'hui, avec l'évolution du goût, parce que les amateurs ont leur goût qui évolue. En même temps que le nôtre aussi, parce que je suis un amateur aussi, donc je me rends compte, le goût des amateurs évolue. Les amateurs, autrefois, aujourd'hui, ils n'auraient pas du tout supporté beaucoup de vins qui sont, des amateurs aujourd'hui n'auraient pas supporté la majorité des vins qu'on faisait il y a 30 ans. C'est pas possible. Les vins, tout le monde a changé, le consommateur, et heureusement, les viticulteurs se sont adaptés. Mais il reste toujours des gens qui sont à la traîne, toujours, et qui profitent du béotien pour vendre des vins qui se...
Oui. Alors, on vient de traverser, et on traverse sans doute encore d'ailleurs, une crise viticole très importante à Bordeaux. Quel rôle est-ce que cette crise a joué ou va jouer dans, l'avenir de ces vins-là ? C'est-à-dire, est-ce que finalement beaucoup de ces vins insuffisants sont en train de partir au tapis ou est-ce que, donc par une forme de sélection naturelle, on pourrait dire ? Ou bien est-ce qu'il y a aussi de vaillants soldats du terroir qui sont en train de passer à la trappe et qui devraient survivre parce qu'eux font un vin qui ne se vend pas, mais qui est un vin de qualité.
Des vaillants soldats du terroir, c'est bien, j'aime bien le mot. Il y en a qui passent à la trappe parce qu'ils n'ont pas su organiser le commercial. Aujourd'hui, c'est fondamental. Hein. C'est un tiers à la vigne, un tiers au chai et un tiers au commerce. Donc, autrefois, c'est facile. Hein. Il suffisait de produire. D'avoir un bon courtier, c'était fini. Maintenant, à part les crus classés, ça, c'est fini. Il faut vraiment organiser. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, qui ont fait des études commerciales en général et pas des études d'œnologie ou de viticulture, ceux-là, ils ont l'avenir. Et surtout s'ils font le vin dont vous parlez. Moi, j'en connais comme ça. Ceux-là, ils s'en sortent, même en Bordeaux Sup, ils ont de beaux résultats. Mais ceux qui n'ont pas ça, malheureusement, qui attendent toujours le courtier, pourquoi ? Parce que le négoce regorge de vin. Et s'ils n'ont pas les structures viticoles pour faire le vin de qualité, les structures viticoles, ça veut dire avoir une densité suffisante, faire des rendements qui sont maîtrisés, etc. Ça ne se fait pas comme ça. Dans la réforme des ODG dont je parle, C'est la faillite des syndicats, l'organisation professionnelle de chaque appellation, qui s'autocontrôlait et donc laissait passer tout, parce qu'avant c'était avant tout politique. Cette organisation qui dépend du ministère de la Culture, de l'INAO, on parle de la faillite. Ils n'ont pas fait faillite, mais ils ont arrêté de s'appeler syndicat et ils sont repartis sous une autre forme en France, en Europe d'ailleurs, puisque c'est européen ça, qui s'appelle en France ODG.
Alors, organisme, ça veut dire organisme
de gestion. Bon, organisme de gestion qui a des principes de contrôle qui sont différents. On va les contrôler en amont. C'est-à-dire on va chez le producteur et on va contrôler la façon dont il a planté sa vigne.
Donc en fonction d'un cahier des charges précis.
Cahier des charges précis, mais ça va être très long à mettre en place, très très long à mettre en place pour arriver à un résultat. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Mais il y a aussi le problème du rendement. Il va falloir que les rendements baissent. Il y a des zones, l'Entre-deux-Mer par exemple. On ne peut pas faire de bons vins et de gros rendements. Quand vous êtes à Pauillac, quand vous êtes à Margaux, sur les plus belles croupes, vous pouvez aller à fond la caisse. C'est ça qui est injuste en matière viticole. C'est très injuste. Ce sont des terroirs qui en donnent du talent au vin et vous pouvez produire beaucoup et vous faites bon. Enfin, il y a des limites toujours. Mais quand vous êtes sur un terroir qui est moyen, qui est un peu argileux, voilà, qui est un peu bas, qui est un peu froid, ben là, vous avez de très belles réussites, mais il faut diviser le rendement par deux. Voilà.
Alors, donc vous avez évoqué les vins qui sont insuffisants, qui pourraient être des vins de terroir, mais qui ne peuvent pas être considérés comme tels parce qu'ils n'ont pas fait le travail nécessaire pour exprimer le terroir. Qu'est-ce que c'est, à vos yeux, le vin de terroir idéal ? Qu'est-ce qui vous paraît ? Qu'est-ce que vous aimez quand vous dégustez un vin et que vous dites ça, pour moi, c'est quelque chose, quel que soit le niveau de reconnaissance de l'appellation. Quand est-ce que vous êtes certain que vous êtes en face d'un vin de terroir qui exprime tout ce qu'il doit exprimer ? Comment en êtes-vous sûr et quels sont vos critères ?
Alors, il y a le vin que je déguste, certes, mais aussi il y a la régularité de production. Un vin de terroir, c'est un vin qui est issu d'une propriété qui régulièrement va produire quelque chose adapté au millésime, qui ne sera jamais la même chose, puisque tous les millésimes sont différents. Mais ça va avoir un profil toujours ressemblant, mais variable. Bon, et évidemment, il se trouve entre les deux, entre l'insuffisance et l'excès. L'excès dont on va parler peut-être tout à l'heure.
On va en parler,
l'excès,
bien sûr.
Bon, c'est entre les deux. Il y a une sorte d'équilibre, une sorte d'harmonie. Parce que quand on goûte du vin, ce qu'on recherche, sont des équilibres. C'est compliqué, mais ce sont des équilibres à la fois aromatiques et à la fois dans la bouche, quelque chose qu'on va trouver harmonieux, comme quand on mange quelque chose de bon. On a une sorte d'harmonie et aussi on a un peu de matière. On a un contact physique aussi avec le vin. Donc il faut qu'il ait aussi une certaine concentration. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus. Donc tout ça, c'est fait d'équilibre. Et ça, c'est difficile, j'essaie moi d'expliquer, dans la partie structure et finesse, qui s'opposent quelquefois. J'essaie d'expliquer un peu ce que je ressens. Ici, au micro, en quelques mots, je vais avoir du mal.
Oui, non, d'ailleurs, c'est parler de... Enfin, j'admire toujours la faculté qu'ont les dégustateurs de parler de ça, parce que c'est quelque chose dont on se demande d'ailleurs parfois si c'est tout simplement racontable. Il y a des pages qui sont d'ailleurs très, très amusantes et très, très évocatrices sur le vocabulaire du vin, les nouveaux mots du vin, dont on parlera peut-être juste après. Oui. Mais on a parlé donc des vins insuffisants, on a parlé de ce que peut être un bon vin de terroir. Et alors, il y a une catégorie de vin, alors là, qui vous fait voir rouge, rouge profond, rouge rubis, c'est ce que vous appelez, vous, les vins...
Excessifs.
Les vins excessifs. Alors, parfois, vous dites bodybuildé, sursaturés,
surmûris,
etc. Alors, ces vins-là, alors ça, vous pouvez pas les voir en peinture. Ça vous agresse.
Parce que ça sort du contexte là.
Ouais.
On sort du contexte d'équilibre.
Alors, là, vous en parlez beaucoup et vous en avez déjà parlé d'ailleurs dans vos livres précédents. Vous les traquez dans les dégustations. Vous apercevez d'ailleurs que c'est un modèle qui a plutôt gagné en influence.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce que vous reprochez exactement à ces vins-là?
Je reproche rien parce que tous les goûts sont dans la nature. je reproche que je suis, ça me plaît pas. Quand les équilibres du vin généraux, aromatiques et gustatifs ne sont pas et sont détruits quelquefois même par un apport extérieur, bien sûr la barrique avant tout, le fût neuf avant tout, moi ça me déplaît parce que je le ressens et je ne l'aime pas. Alors je sais qu'il y a des gens qui s'en fichent complètement, des dégustateurs au contraire qui le recherchent même. Mais je trouve que l'identité du vin, c'est comme une femme se va se maquiller, c'est très bien si c'est bien fait, s'il n'y en a pas trop. Mais s'il y en a trop partout, si on ne la voit plus, aussi belle soit-elle, ça n'ira pas. Donc on parle de maquillage d'ailleurs dans le vin, et c'est bien vrai. Alors moi je suis peut-être plus sensible que d'autres dans les comités, je parle beaucoup des comités de dégustation, que ce soit privé ou que ce soit professionnel. Et c'est très agréable de goûter avec d'autres parce qu'on confronte son goût et c'est intéressant. Moi je suis très sensible, mais enfin il y a une catégorie de dégustateurs qui sont aussi sensibles que moi, j'en connais dans la salle, qui sont là, et d'autres qui ça les gêne pas trop, et puis d'autres qui adorent ça, et en particulier certains dégustateurs connus et très influents.
J'ai relevé page 97. Il va donner des noms après. J'ai relevé Franck dans votre livre une description un petit peu de ces vins. Alors vous dites quel que soit le millésime, ces vins sont puissants avec un alcool, une couleur extrême, une acidité basse, un goût presque sucré, des tanins épais, denses, paradoxalement onctueux, souple, gras. Le fruit est souvent exubérant s'il n'est pas masqué par l'essence du chêne neuf. En effet, un malheur n'arrivant jamais seul, ces vins hyper concentrés, boursouflés, subissent la dictature du chêne neuf comme signe universel de reconnaissance. Et un petit peu plus loin, vous parlez des stigmates falsificateurs de la démesure. Ouais, c'est donc, bon, vous dites, bon, c'est assez évocateur, les stigmates falsificateurs de la démesure, j'aime assez, je trouve ça. On a l'impression effectivement d'avoir dans la bouche quelque chose de.
Une sorte de confiture.
Une sorte de sirop de grenadine ou qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ça que vous avez dans la bouche?
C'est ça, oui, parce que ça m'arrive, moi, d'en servir à des amateurs et de voir leur réaction. Il y en a qui aiment, et les vrais amateurs, et j'en connais, j'en vois qui arrivent là, qui le rejettent. Bon, voilà, je donne ce livre par, effectivement, d'un côté très subjectif qui est mon goût. Mais que je partage pour son goût, comme beaucoup les idées aussi, c'est très important de les partager.
Je précise pour ceux qui voulaient des noms que ce n'est pas dans ce livre-là que vous allez les trouver. Vous allez peut-être si vous retrouvez le livre de 2007, paru d'ailleurs chez Mola, Les Grands Bordeaux, de 1899 à nos jours, vous trouverez peut-être quelques...
Non plus.
Jamais, non plus. Alors voilà. Donc, Franck n'a pas une volonté de dénonciation, mais par contre, c'est une tendance que vous...
Je parle de l'influence américaine... général, parce qu'il n'y a pas que le nom que vous attendez, que je ne citerai pas. Il y a d'autres dégustateurs. Il y en a certains des très grands classiques, malheureusement, qu'on ne connaît pas. Je pense à Tanzer, pour citer un nom. Voilà, c'est un dégustateur américain, ou même celui qui a fait le film, qui n'est pas dégustateur, mais qui est un journaliste, qui s'appelle Nociter, voilà, qui a fait Mondovino, vous l'avez peut-être vu. Et puis il y a des Américains qui goûtent le vin, qui aiment le vin comme moi ou comme mes confrères. Bon, puis il y en a d'autres qui ben, c'est pas ça qui leur plaît, puis c'est tout. Donc on va aller faire le vin pour eux. Voilà.
Alors les vins excessifs, on a compris ce que vous leur reprochez. Mais alors, il y a une catégorie qui est peut-être plus intéressante à disséquer, c'est ce que vous appelez les vins modernes. C'est-à-dire qu'en fait...
Alors les vins modernes, c'est une nuance que j'ai essayé d'apporter.
La question, c'est est-ce que les vins modernes tels que vous les décrivez, est-ce que ce serait quelque chose comme une version atténuée
des
vins excessifs,
c'est ça.
Mais qui serait donc un petit peu moins malhonnête, un petit peu plus honnête, ou un petit peu moins exagéré.
C'est ça. C'est-à-dire qu'entre les deux extrêmes dont je parle, entre l'insuffisance et l'excès, effectivement, il y a des intermédiaires, il y a 20 terroirs. Mais on peut aller un peu vers l'excès, surtout quand on est dans des appellations moins noble sur des appellations comme Bordeaux, comme Côte. Les marchés sont difficiles, etc. Et certains crus peuvent être tentés un tout petit peu de changer un peu les méthodes pour rendre les vins un peu plus aimables, un peu plus faciles, qu'on va consommer plus vite dans la première, deuxième année, troisième année. Parce que les grands vins classiques, les grands vins de terroir, en général, ils sont pas bons tout de suite. Et comme le marché mondialisé maintenant, vous savez, ils achètent les vins, ils arrivent, ils les ouvrent, quoi. La politique de garder les vins, ça... Voilà. Et donc, l'idée de faire des vins depuis déjà 15 ou 20 ans, de les faire un peu plus aimables, un peu plus attrayants, un peu plus ronds, un peu plus faciles, un peu moins acides, donc un peu plus mûrs, c'est tout à fait compréhensible quand on est un peu dans le bas de l'échelle. Mais après, quand on monte dans des appellations plus nobles, voire quand on est cru classé, et qu'on veut faire ça pour plaire immédiatement, voire pour plaire aux dégustateurs, non. Enfin, je m'assure, je suis contre ça. Mais bon, après tout, ils ont de bonnes notes. Ils ont de bonnes notes et ils gagnent beaucoup d'argent. Alors,
évidemment, là, on revient peut-être à cette affaire de guerre. On conçoit bien que les conditions du marché mondialisé du vin font que c'est peut-être sans doute très difficile aujourd'hui pour un cru, pour un cru de résister à cette tentation. Parce que bon, c'est une tentation. La tentation de pouvoir...
Arranger un peu. Quelquefois.
Est-ce que vous considérez qu'on peut le faire honnêtement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des crus qui, à vos yeux, ne se sont pas, je dirais, prostitués ou travestis mais qui ont réussi quand même à prendre ce virage sans être indigne. Quoi.
C'est ça, c'est une bonne question. Il y a des crus comme ça. Je ne vais pas les citer. Ouais, il y a des crus, classés, pas classés, qui ont réussi un peu à être un peu entre les deux et à jouer sur les deux tableaux. Et ma foi, j'espère qu'en vieillissant, le terroir ne sera pas trahi, parce que c'est le risque, là.
Mais pour ça, il faut avoir un petit peu de recul.
Ah, il faut du recul.
Mais par quelle technique est-ce que ça passe, ces petits changements qu'on apporte pour rendre le vin plus aimable, comme vous dites? Qu'est-ce que vous allez faire?
En vendange un tout petit peu plus mûr, on va extraire un tout petit peu plus, le vin va être un peu plus riche, un peu plus concentré, on va faire un élevage en barrique un peu plus long, le vin sera un peu plus goût de bois, donc on est vers une tendance, mais derrière on devine quelque chose qui est quand même très intéressant. Dans les trois goûts dont je parle, il y a tout un tas de choses perverses qui sont entre qui sont des mélanges comme ça. Souvent on trouve des vins de terroir qui sont magnifiques, mais ils sont occultés par une chape de bois. Alors ça, c'est courant, ça, et quand je goûte, je dis ça, c'est dommage, j'avais le vin, il est là. Il est présent, il ressemble à quelque chose, et plaf, en fin de bouche, pouf, on se farcit le truc, et le vin suivant, on ne peut pas le goûter, parce qu'on a la bouche qui est pleine d'effluves du chêne, c'est dramatique. Voilà, mais voilà.
L'effluve du chêne, alors...
C'est beaucoup, hein, quand vous avez certains chênes, alors pas tous, il y a des chênes, alors il y a des chênes de qualité, vous avez des chênes de qualité, souvent, ces gens qui réussissent ce passage dont vous parlez, qui est très intéressant, sur des Bordeaux, sur des Côtes, ils ont... d'un bon tonnelier, il se débrouille à avoir de bonnes essences de chêne qui se font bien. Enfin, il y a des vins modernes qui sont vraiment réussis. C'est pas ça que je vais servir, hein, moi. Mais voilà, c'est les intermédiaires.
Et alors évidemment, donc une fois qu'on a parlé des vins de terroir, des vins de terroir, donc ceux qui sont réussis, ceux qui le sont moins, une fois qu'on a parlé des vins excessifs ou surexcessifs ou sur-surexcessifs, et puis qu'on est revenu sur les vins modernes, après il y a ceux que vous aimez, vous, qui sont c'est les vins classiques, on va dire, hein,
c'est
les
vins. Ouais, c'est le mot que j'utilise.
Alors, les vins classiques. Alors quel mot vous aimeriez utiliser? Je ne sais plus d'ailleurs si c'est celui que vous employez.
J'emploie parce que classique qui fait référence bien sûr. À l'art classique, il y a une sorte de répétition d'une certaine esthétique dans le classicisme, et c'est la répétition de gestes ancestraux pour faire le vin en s'appuyant sur la technologie moderne et l'œnologie moderne, certes, dont les faire encore plus facilement qu'on les faisait autrefois. Il y avait beaucoup d'empirisme, donc c'est plus facile aujourd'hui de faire un vin de terroir que ce n'était autrefois. C'est pour ça que des petits crus en font. Il n'y avait pas que les crus classés qui en ont les moyens énormes. Donc, on sait mieux maîtriser tout ça. Voilà.
Alors, ces vins classiques, c'est vins que vous aimez, dont vous en parlez. Pour vous, évidemment, selon le terroir tel que vous l'analysez, selon l'histoire du vignoble lui-même, selon les traditions œnologiques locales, selon quantité de facteurs, on va arriver à un produit qui va être un produit
qui ressemble à son
environnement,
au lieu et bien sûr à la personne qui l'a fait, parce que la personne marque le vin. Mais au vieillissement, c'est pas forcément la personne qui va rester, c'est le terroir qui va naître quand même, une sorte de vérité. Au-delà même, les grands vinificateurs, on le dit, moi j'en suis pas, mais je regarde ceux qui font les grands vins, ils s'effacent derrière le terroir, ils s'effacent pas tout de suite. C'est la technologie s'efface avec le vieillissement. C'est justement la force de ces vinificateurs, c'est justement de que le terroir puisse ressortir à terme. Mais faut-il attendre ? C'est ça, tout le problème, c'est le temps. Et maintenant, on n'a plus de temps. On n'a pas de temps. C'est ça.
J'ai encore deux ou trois questions à lui poser, puis après on va donner la parole à la salle très vite, hein, parce que je crois que vous avez sans doute il y a sans doute pas mal de gens qui ont des questions précises que je n'aurais pas posées. Alors je voulais simplement terminer sur cette affaire de vins que vous aimez, ces vins classiques. Est-ce qu'il vous arrive est-ce que vous êtes obligé lorsque vous êtes rendu sur place ou d'avoir vraiment vu l'exploitation, ou est-ce que cette typicité, ce classicisme, cette authenticité, elle vous saute à la bouche.
Elle me saute au nez, oui.
Elle vous saute au nez à la bouche.
Mais j'aime bien après y aller.
Voilà.
Elle
est tout à fait indépendante de la connaissance physique des lieux. Hein.
Alors évidemment, quand je j'aime la personne ou je deviens ami, j'aime encore plus le vin, ça c'est vrai. Mais voilà, il y a l'inverse aussi.
Alors il y a aussi
des amis dont j'aime pas les vins.
J'imagine.
Voilà.
Ça c'est l'éthique. C'est peut-être l'éthique du dégustateur dont vous avez peut-être envie de parler. Cette éthique du dégustateur.
Non, je ne me prétends pas.
Parce que comment dirais-je là. Évidemment, c'est une question que les gens se posent toujours. Vous êtes qualifié à juste titre de critique indépendant et donc.
On a toujours des influences.
Voilà. L'honnêteté, évidemment, c'est cardinal. En même temps, il y a tout, évidemment souvent des petits biais qui arrivent.
Si on aime un propriétaire, si on l'aime bien en tant qu'homme, on va encore plus aimer son vin. D'ailleurs, quand un propriétaire vous reçoit chez lui, qui vous raconte ce qui se passe au château, c'est les portes ouvertes, c'est formidable pour aller découvrir le vin, c'est merveilleux. Et vous allez l'aimer encore plus que si vous l'avez chez vous sur la table, le vin, quoi. Parce que tout vit, là, tout vit, et le goût année magnifié, toujours. D'ailleurs, nous, on aime bien goûter avec les étiquettes cachées, autant que faire se peut. Je le dis, en l'absence du propriétaire, la pire des choses pour nous, c'est goûter dans les chais. D'abord, on a les mauvaises odeurs qui sont de moins en moins, mais on a les mauvaises odeurs souvent dans les chais, un peu. Hein.
Donc des odeurs parasites, et des parasites.
Des odeurs parasites. Ensuite, on a le propriétaire qui ne cesse de vous raconter que son vin est absolument extraordinaire. Voilà, et qui vous influence par la force des choses. Souvent, il y en a qui ont raison. Mais bon, moi j'ai la chance de pouvoir goûter souvent chez moi, tranquille, tout préparé, impeccable. Voilà.
Bon, alors l'arme suprême, c'est la note. La notation.
C'est une référence, oui.
C'est une référence. Alors vous êtes pas très tendre avec les notations. Enfin, en tout cas avec la notation telle qu'elle est le plus couramment utilisée pour dresser des échelles
de
valeur.
Qu'est-ce
que vous avez envie de dire sur la notation ?
C'est une façon de donner un point de vue synthétique sur quelque chose de délectable. Une note, voilà, c'est comme à l'école, c'est synthétique, c'est tout. Mais après, bon, ça, c'est, alors en plus, bon,
si, mais c'est, qu'est-ce
bon,
que vous
si c'est des notes, non, là où je me bats contre les notes en primeur. Alors ça, les notes en primeur, vous avez un grand chapitre, vous verrez, avec le bricolage des échantillons, etc. Alors ça, c'est vrai, ça c'est une honte, mais c'est normal. À l'école, il y a toujours eu les bons, les premiers, ceux qui sont derrière, qui trichent, qui ont les pompes et tout. Donc on retrouve ça dans le vin, non?
Nous sommes en pleine session du bac, hein.
Voilà.
C'est pour ça qu'il est très influencé. Mais enfin, j'en reviens à la notation. Bon, la notation, d'accord, une notation synthétique est utile, bon, oui. pour établir une échelle des valeurs.
Mais une échelle de valeurs. Valeur.
Voilà. Alors, est-ce qu'on a tendance à lui accorder la notation trop d'importance et du coup à sous-estimer d'autres critères qui sont pas des critères qui peuvent être considérés ou synthétisés dans la note, mais qui sont aussi importants pour qualifier. Ouais,
Vous savez, la note, ça, c'est pour donner un avis rapide. Les gens n'ont pas le temps et puis ils vont comparer. S'ils vous font confiance à vous, ils iront sur votre meilleure note et ils vont aller comparer chez l'autre, etc. C'est un moyen de donner une image, mais c'est tout. Et après, effectivement, il faut parler des notes qui sont données en primeur. Alors ça c'est vraiment vraiment catastrophique parce que les vins sont jugés à ce moment-là. Le prix des grands est fait à ce moment-là, et donc les portes sont ouvertes pour tout faire pour que 120 ait une bonne note. Alors, je ne vais pas dans le détail, ni des choses qu'on ne peut pas raconter. Dans tout ce qu'on peut raconter, il y a des choses à voir là-dedans. Les vinifications intégrales, vous avez vu
oui.
Les vinifications intégrales pour fabriquer les vins, les échantillons pour les primeurs, enfin, des tas de choses. Mais tout le monde ne le fait pas, mais il y a certains qui le font. Voilà.
On a compris où allaient vos préférences, donc vers un classicisme du vin, donc une
vérité,
donc vérité classicisme voilà. Du vin que vous avez essayé de caractériser, que vous caractérisez encore mieux dans ces pages. Est-ce qu'on pourrait vous, si on voulait vraiment chercher la petite bête, mais est-ce qu'on pourrait vous reprocher d'avoir une vision évidemment peut-être un peu élitiste dans ce classicisme, d'avoir une vision peut-être un peu
archaïque,
élitiste,
archaïque.
Tendance peut-être à écarter d'emblée toute une grande partie de la production d'aujourd'hui qui plaît à une quantité de gens et qui de gens qui par ailleurs peuvent être des juges corrects de ce qu'ils boivent. Est-ce qu'on vous a fait parfois le reproche de
oui mais de, vous pouvez
de,
le faire
non non mais je vous le fais pas je vous demande si c'est une critique qu'on pourrait que vous entendez, qu'on pourrait cacher en vous faire
mais vous pouvez la faire.
Non, je suis tout à fait de votre avis.
Oui, c'est un peu. Alors, c'est une sorte d'élitisme sans être prétentieux, mais de mon goût, j'y suis pour rien.
C'est bien répondu. Eh bien, écoutez. Je vais vous laisser avec l'auteur. Donc, je rappelle donc qu'il publie Du terroir à la guerre du goût, suivi d'un pratique de la dégustation aux éditions Confluence. Ça coûte 15 €. Et c'est très bien, bien sûr. Enfin, j'espère qu'on vous a donné un petit peu le goût de le lire, de le goûter, de l'acheter. Et puis, donc, je remercie Franck Dubourdieu
c'est moi qui vous
de cette présentation. Et je vous remercie d'être venu.